Au-delà des apparences. Des apparences. Au-delà des apparences, une émission proposée par Sandrine Merck.
Bienvenue dans votre émission Au-delà des apparences. Nous recevons aujourd'hui Christine, qui nous a parlé la semaine dernière et la semaine avant encore de son engagement très, très, très local, puisque c'était à quelques kilomètres de chez elle. Votre engagement, en fait, il est né de votre pratique du Népal, je dirais, en tant que grande montagnarde, et de ce tremblement de terre il y a 10 ans.
Oui. En fait, je vais couramment au Népal depuis 1987. Je suis tombée amoureuse, évidemment, de ce pays. Comme n'importe quelle personne qui aime la montagne, en particulier les Pyrénées, qui restent très beaux. Et en avril 2015, le 25 avril 2015, j'étais justement à Katmandou avec un petit groupe que j'avais amené en montagne. Et la terre a tremblé. La terre a tremblé. J'ai eu l'énorme chance d'échapper à ce tremblement de terre qui était quand même d'intensité plus de 7, pas loin de 8. Donc ça a été un tremblement de terre très très fort et dont l'épicentre en plus se trouvait tout près du village de ma famille que je peux considérer maintenant de ma famille népalaise. Depuis le temps que je vais au Népal, voilà, j'ai comme beaucoup de personnes ma propre famille népalaise là-bas. Donc ben, je ne pouvais pas rester sans rien faire puisque j'ai eu la chance de pouvoir rentrer à Toulouse sans encombre. Et donc, j'ai décidé d'aider, pas la famille qui est la mienne, mais les villages autour, puisque tout le monde était dans une situation terrible, analogue à celle du Maroc aujourd'hui, quoi. Et donc, j'ai essayé de faire tout ce que je pouvais pour, avec eux, aider au mieux.
C'est-à-dire alors parce que c'est vrai que c'est tellement d'actualité aujourd'hui que c'est intéressant de comprendre ce que vous avez vécu il y a 10 ans et de quelle manière on est efficace ou au contraire totalement impuissant.
Ouais. Je peux même dire qu'un détail un peu amusant qui n'était pas à l'époque, c'est que je m'étais excusée auprès de mes élèves, puisque je suis à la base prof, de rester branchée sur Facebook pendant le cours de maths parce que j'attendais des nouvelles de savoir si les gens que je connaissais qui m'étaient chers étaient en vie. Donc j'avais dit à mes élèves, je suis désolée, ça se fait pas, mais c'est trop important pour moi, je vais laisser le Facebook tourner pour savoir si mes amis sont en vie. Voilà, ça je m'en souviendrai toute ma vie. Et donc là, ben, je me suis bougée, j'ai demandé autour de moi de l'aide financière, je suis rentrée dans une association qui était proche de chez moi, Himalaya, dans laquelle je suis restée presque 2 ans. Et je suis repartie le plus tôt possible au Népal pour voir avec les villageois. J'avais réuni à peu près 10 000 euros. Ben, qu'est-ce qu'on allait faire avec ces 10 000 euros? Voilà, mon aide a commencé comme ça. Et l'aide a toujours été avec les villageois, en décidant avec eux.
Mais quoi alors? Donnez-nous des exemples très concrets, en fait.
Alors là, ils avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin de tôle pour couvrir leur maison, puisqu'ils vivaient dans des petits hangars dans lesquels ils mettaient les bêtes, recouverts de plastique. Tout était tombé, hein, de toute façon, dans ces villages. Ils étaient complètement dehors. Ils avaient besoin de quelques bancs pour l'école, parce qu'on avait fait des écoles avec des tôles pour que les enfants puissent continuer à étudier. Et surtout, sur 2 villages, ils avaient besoin de retrouver l'eau. Puisqu'en fait, l'eau n'arrivait plus dans les villages, tout avait été emporté. Et le plus gros du travail que j'ai fait à l'époque, c'est trouver les fonds pour qu'ils puissent acheter le matériel pour faire revenir l'eau de la montagne. Et le matériel partait de la vallée à 600 mètres, était porté à dos d'homme, parce qu'à cette époque, tout se faisait à pied. C'était porté à dos d'homme jusqu'à 1800 mètres, voire plus, pour aller chercher l'eau.
Les événements actuels au Maroc et en Syrie doivent quand même vous replonger dans ces affres, en vous disant, je sais ce qu'ils vivent, je sais ce qui n'arrive pas, ou ce qui arrive. Comment vous analysez ces situations où, quelque part, l'aide arrive souvent quand même très tardivement?
Ah ben là, je dirais que quand tout est cassé comme ça autour de nous, oui, moi j'ai revu des gens au Népal dont je sais qu'ils ont attendu 8 jours coincés dans la montagne. Ça dépend aussi de la géographie du pays, quoi. Mais au Népal, c'était extrêmement difficile parce qu'il y avait des gens qui étaient vraiment loin de tout. Je pense que l'aide sur la Libye et le Maroc est quand même plus facile qu'elle n'a été dans les montagnes népalaises quand même.
Mais là, vous étiez quelques personnes, je dirais, une petite association. Est-ce que ça se met en place rapidement suite à l'événement ?
Au Népal, qui est un pays très aidé, il y a eu énormément d'associations.
Très aidé parce que très aimé, parce
très
que
aimé.
Les gens
oui.
parcourent le Népal, oui, aiment le Népal,
les
grimpent au Népal.
Les Népalais sont des gens extrêmement accueillants, extrêmement souriants, extrêmement attachants.
Et puis c'est le pays des montagnards quand même, et tous les montagnards passent par le Népal.
Oui, les montagnards sont attirés, mais même des gens non montagnards, parfois ont envie d'aller au Népal, et c'est vrai que c'est un peuple très très attachant, où il y a énormément d'associations. Et je pense que d'ailleurs, ça devait être un petit peu la pagaille quand même au Népal, hein, par rapport à ce que fait le Maroc, qui lui demande à ce qu'il n'y ait pas 50 000 pays. C'est vrai qu'on peut comprendre qu'un pays demande à gérer quand même son aide. Je sais qu'au Népal, il y avait eu des stocks et des stocks d'aide qui ne sortaient pas à l'aéroport. Hein, parce que la gestion était quand même un peu compliquée. Ils ont mis des années quand même à se reconstruire.
Et aujourd'hui, alors, vous continuez à aller au Népal. Chaque année, vous avez construit... Vous êtes dans la... Vous n'êtes plus dans la reconstruction, vous êtes dans le développement maintenant.
Plus du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a permis de rencontrer tout d'abord des petits gamins qui n'avaient pas d'école chez eux et qui, après le tremblement de terre, ne pouvaient plus être aidés par des familles. Et donc, ces gamins, soit je les aidais pour qu'ils restent dans mon village et qu'ils puissent étudier, soit ils retournaient dans les champs avec les parents. Et donc, j'ai choisi de les aider. Et donc, j'ai monté un petit internat très, très simple. Pour des gamins de villages éloignés, j'en ai jusqu'à 52. Donc le principe, c'est qu'ils pouvaient manger et dormir, aller à l'école. Voilà. Sachant qu'il y a des jours et des mois pendant lesquels ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Donc si ces gamins n'avaient pas eu à manger, de toute manière, ils ne pouvaient pas continuer à étudier. Et ces enfants, je les suis toujours depuis les cabanes en tôle se sont transformées en petites maisons en dur. Et depuis, ils sont moins nombreux qu'avant parce qu'il y a des familles qui peuvent prendre en charge des enfants de certains villages. Mais voilà, ils sont toujours là. Et la grande victoire, c'est que dans le dernier village le plus éloigné que j'aide, maintenant, ces gamins arrivent au niveau de l'examen final de collège népalais. Et c'est une grande victoire parce qu'autrefois, ces gamins ne passaient jamais cet examen. Mais j'ai rencontré également d'autres personnes qui avaient des projets, en particulier les femmes. Parce que quand j'avais demandé aux villageois « qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ?», il y avait eu aussi des demandes qui étaient moins importantes que réparer évidemment en urgence. Il y avait en particulier une demande des femmes de Souaragon, donc de mon village, pour avoir un lieu à elles. Parce qu'elles se sont montées en association et l'association est destinée à l'entraide. Les Népalaises sont des femmes absolument extraordinaires qui font un travail fou. Et j'étais heureuse de pouvoir, avec une deuxième association dans laquelle j'ai travaillé, dans laquelle j'étais présidente pendant un an, j'ai la chance d'avoir pu faire construire une maison pour ces femmes. Donc merci les enfants de Souria, hein, l'association de Pierre Périssé, qui a fourni les fonds pour pouvoir mettre ce projet en route. Et c'est une grande victoire parce qu'en plus de ça, ça nous permet maintenant d'avoir au village un lieu où on peut faire des activités. Et cette année, pour la deuxième année, je fais venir un camp médical dans le village.
Alors ça, on va en reparler juste après parce que vous allez nous expliquer comment vous mariez votre passion du trek et l'aide humanitaire. Parce qu'il faut se faire plaisir aussi.
Mmh, bien sûr.
Et vous avez décelé, vous avez découvert dans ce village une chanteuse qu'on va écouter tout de suite. Et qui se fait appeler Kamala.
Oui, oui, c'est ma petite Kumari que j'ai connue toute petite.
Un talent fou dans ce village perdu.
Une voix extraordinaire.
Salala la salandu kola layo maya ke hola ke hola sanu tade chilvasyo. Salandu khola layo maya ke hola ke hola sanu dade chilvasyo dadai chilvasyo nahunu hunsa ke e mayalu chade dilvasyo
पानी माथे लाग्दैन तर्पण
donc dans ce village, vous apportez également les soins médicaux, ou en tout cas, vous, chaque année, puisque vous y allez chaque année quand même, vous instaurez une sorte de visite médicale mobile.
En fait, ça a commencé avec l'association des enfants de Souria de Pierre Périssé, où j'avais monté pour eux un camp ophtalmo. Et je voyais bien que les villageois, ils avaient besoin d'autre chose. Et donc, l'an dernier, j'ai mis en place, donc avec ma propre association, un camp médical itinérant. Parce que quand il y a des camps dans la montagne, ils se posent sur un endroit fixe. Et les gens doivent venir à ce camp-là. Alors que là, on est allé au-devant des gens. Donc, chaque jour, on partait dans un village différent, parfois à plus de 3 heures de marche, avec tout notre matériel, pour pouvoir examiner les gens qui étaient volontaires. Et donc, la grosse surprise de ce camp-là, c'est de découvrir des gens que je n'avais jamais vus jusque-là, parce qu'ils ne sortaient pas de chez eux, des handicapés des montagnes, que je vais essayer d'aider aussi maintenant.
Et là, vous êtes aidée, vous-même, par des bénévoles que vous recrutez du corps médical.
Oui.
L'année dernière, c'était 2 infirmières et 1 kiné, je crois.
Ou 2 infirmières, une kiné y est allée ensuite toute seule. Donc, en fait, ce sont des gens, soit que j'ai cooptés, soit des gens par Facebook. Je suis sur une page Facebook où j'échange avec des gens qui sont intéressés par le Népal. Et j'ai eu comme ça des gens qui ont été volontaires. Et cette année, à part une amie et les autres, ce sont des gens qui m'ont connue par les réseaux sociaux, avec qui on a sympathisé et qui se joignent à nous.
Et qui vont marcher avec vous.
Et qui vont
marcher avec vous.
Et qui vont devoir marcher pour aller soigner. C'est
pour aller soigner et pour aller marcher tout court, puisque c'est quand même une de vos passions qui vous rassemble tous. Merci Christine.
Avec plaisir.